Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La France n'a pas eu gain de cause. Les pays de l'Union européenne ont voté en faveur du renouvellement du glyphosate pour 5 ans. Nous irons à Bruxelles. Le pape en voyage en Birmanie. Il a rencontré le chef de l'armée. François s'inquiète du sort réservé aux Rohingyas. Le dossier de ce journal leur sera justement consacré avec un reportage dans un camp de réfugiés. Tout le monde peut se tromper. Le projet de loi instaurant le droit à l'erreur a été présenté en Conseil des ministres. Valentine Joubin en détaillera les grandes lignes. L'adhésion de Thierry Soler à La République En Marche pose des questions d'organisation à l'Assemblée. Thierry Soler occupe un poste de questeur revendiqué par l'opposition. Après plus de 2 ans d'expertise contradictoire et de négociations infructueuses, il était temps de trancher. L'Union européenne a décidé de renouveler l'autorisation du glyphosate pour 5 ans, malgré le classement de l'herbicide en cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu 18 votes pour, 9 contre et une abstention. Les précisions de Lex Milota à Bruxelles.
Retournement de situation en faveur de la Commission européenne. L'exécutif européen pousse un ouf de soulagement, tandis que les ONG expriment leur déception. La Commission ne voulait surtout pas prendre cette décision seule, ce qu'elle aurait dû faire si le vote n'avait pas été concluant. 18 pays ont voté pour un renouvellement de la licence du glyphosate. Parmi eux, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou encore l'Espagne. 9 s'y sont opposés, comme prévu la France, l'Italie, la Belgique, l'Autriche et un pays seulement s'est abstenu. Ce qui a changé la donne, c'est certainement le vote de l'Allemagne, pays qui pesait dans la balance et qui s'était abstenu jusque-là. Il a aujourd'hui voté pour. L'Allemagne aurait changé d'avis après avoir demandé des modifications au texte proposé. La Pologne, la Bulgarie et la Roumanie, qui s'étaient aussi abstenues précédemment, ont suivi l'exemple allemand. Pour le mouvement Avaaz, je cite, « L'Allemagne a capitulé et offert à l'industrie chimique un joli cadeau de Noël ». Même déception pour l'eurodéputé Michel Rivasi, « on ne pensait pas qu'ils allaient changer de camp », dit-elle. La Commission européenne, elle, se félicite de ce vote et va adopter cette décision avant l'expiration de la licence, c'est-à-dire avant le 15 décembre.
Alors que la FNSEA salue une décision de bon sens et le réalisme d'un certain nombre de pays, 3 associations expriment leur colère dans un communiqué commun. Génération Future, Foodwatch et la Ligue contre le cancer se disent scandalisés. L'Union européenne a balayé le principe de précaution et la santé du revers de la main, déclare-t-elle, appelant le gouvernement français à agir de son côté. Écoutez Karine Jacquemin de l'ONG Foodwatch.
On trouve ça scandaleux parce que du coup c'est la santé à la fois des agriculteurs et des consommateurs qui est reportée quoi. C'est un nouveau sursis de 5 ans pour Monsanto et l'industrie chimique, mais on ne s'oriente pas du tout vers une sortie du glyphosate. Nous, ce qu'on voulait, c'était une décision maintenant pour ne pas renouveler le glyphosate en ayant bien sûr un plan d'accompagnement des agriculteurs. C'est l'industrie chimique qui semble avoir gagné cette manche. C'est dommage et c'est scandaleux. Il y a un manque de courage politique très fort de dire oui, on a des éléments très importants de scientifiques qui nous disent qu'il y a un produit potentiellement cancérigène. Il y a un principe de précaution qui fait que quand il y a un doute, on doit prendre des mesures pour protéger la santé publique. Là, on ne le fait pas. Et la Commission voulait 10 ans, elle n'a pas réussi, mais elle a réussi à avoir 5 ans. Et c'est 5 ans sans une perspective de sortie. C'est un renouvellement sans avoir pris aucune autre décision que de dire « eh ben on continue pendant 5 ans et on verra plus tard ». Donc il n'y a aucune perspective de sortie au niveau européen. C'est vraiment scandaleux. C'était le moment d'acter le fait que dans notre agriculture, dans notre alimentation, nous voulons prendre au sérieux la question de santé publique et faire une transition. Malheureusement, là, le virage n'est pas du tout pris.
Karine Jacquemin de l'ONG Foodwatch, interrogée par Véronique Rebérotte. Et le parti Les Républicains demande au gouvernement français de clarifier sa position sur le glyphosate. Guillaume Pelletier, porte-parole du LR, se demande comment on peut tout à la fois demander la fin du glyphosate pour nos agriculteurs et dans le même temps, à travers le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, continuer à autoriser les importations en France de produits soumis à cet herbicide. La Birmanie aujourd'hui et demain, le Bangladesh jeudi, même si les conseillers du pape lui ont recommandé de ne pas prononcer le mot Rohingya, l'objectif de ce voyage est évident, le pape François espère se rendre utile et faire passer quelques messages en faveur de la minorité musulmane contrainte à fuir la Birmanie pour échapper à une répression sanglante, qualifiée de nettoyage ethnique par les Nations Unies. Aucun pape ne s'était rendu jusqu'à présent dans ce pays très majoritairement bouddhiste. François a été accueilli par des milliers de personnes en liesse et à peine arrivé, il a rencontré le chef de l'armée birmane. On retrouve notre envoyé spécial à Rangoon, Mathilde Imberti.
Les deux hommes devaient s'entretenir jeudi. Ils ont finalement anticipé ce rendez-vous à aujourd'hui. Le chef de l'armée birmane est allé à la rencontre du pape sur son lieu de résidence à Rangoon, l'archevêché. Le général Leng s'impose ainsi comme le tout premier personnage fort de la Birmanie à s'entretenir avec le pape François. Non que l'entretien ait été très long, il a duré 15 minutes, selon le rapport qu'en dresse le Vatican, qui évoque une visite de courtoisie, lors de laquelle les deux hommes ont parlé de la grande responsabilité des autorités du pays en cette période de transition. L'armée, interlocuteur incontournable pour le pape François, l'armée aujourd'hui accusée par l'ONU d'épuration ethnique au détriment des Rohingyas, ces musulmans à qui la Birmanie ne reconnaît ni nationalité ni droit, réfugiés par centaines de milliers au Bangladesh voisin. Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement civil, est quant à elle fustigée pour son manque d'empathie envers les Rohingyas, son laisser-faire, mais face à un pouvoir militaire offensif, les observateurs de la Birmanie estiment que le pape devrait plutôt lui venir en soutien demain lors de leur rencontre, au moins pour consolider la démocratie en Birmanie.
Mathilde Imberti, envoyée spéciale de France Culture dans la capitale birmane. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a récemment publié les résultats du premier recensement des réfugiés Rohingyas dans le sud du Bangladesh. En moins de 3 mois, plus de 620 000 personnes sont arrivées de Birmanie. Parmi elles, plus de la moitié sont des enfants, parfois orphelins. Et les récits concordent, ils décrivent des violences gratuites et systématiques commises par l'armée birmane. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI et Radio France, Sébastien Farcy.
Une grande baraque en tôle ondulée a été installée à côté d'un puits à Baloukali 2, l'un des plus grands camps de réfugiés Rohingyas. À l'intérieur, 200 orphelins sont assis au sol et lisent distraitement le Coran. Ce sont d'autres réfugiés qui les hébergent et les nourrissent grâce au soutien d'une association américaine de Sikhs. Parmi ces enfants se trouve le petit Ayoub, âgé de 8 ans. Quand son village a été attaqué à la fin août, il a fui et marché pendant 10 jours dans la jungle avec les autres villageois.
J'ai dû partir car mes parents ont été tués. On leur a tiré dessus, je l'ai vu. J'ai vécu à Baloukali avec une dame, mais elle est toute seule. Alors depuis 7 jours, je dors ici.
Un autre drame humain moins visible est en train d'émerger, celui des viols perpétrés par les forces armées birmanes lors des attaques de villages. Selon un récent rapport de Human Rights Watch, des dizaines de femmes ont été sauvagement violées en réunion par des militaires ou miliciens dans ce qui ressemble à une pratique délibérée pour terroriser les Rohingyas. Jasmine a été victime de cette cruauté. Cette femme de 22 ans, au visage gracieux, vivait à Tulatuli, dans la région de Mangdao. Le 30 août dernier, les militaires birmans encerclent ce village. Ils abattent d'abord les hommes, puis ils l'emmènent, elle et 4 autres femmes, vers une maison en bois.
Ils ont d'abord arraché mon bébé des bras et l'ont jeté violemment contre le sol. Puis ils nous ont emmenés, ils nous ont violés. Ils étaient plusieurs, après ils ont coupé la gorge des autres femmes et ils m'ont violemment tapé derrière la tête. Je suis tombée inconsciente, je me suis réveillée longtemps après, la maison était en feu, c'est alors que j'ai réussi à m'échapper.
Il est extrêmement difficile d'identifier les victimes de ces viols. Pourtant, cela est urgent pour les aider à retrouver leur équilibre psychologique. Farana Eshita est la responsable du programme local de santé mentale dans l'association Action contre la faim, qui propose des thérapies dans les camps. Elle réagit au cas de Jasmine.
Une telle expérience va entraîner d'immenses problèmes psychologiques à la victime, depuis la dépression légère jusqu'à la dépression profonde. Je ne serais pas surprise si elle développait des psychoses, comme de la schizophrénie ou des troubles bipolaires. Dans ces cas, elle devrait prendre des médicaments pendant longtemps, et nous voulons vraiment éviter ça.
En comptant les réfugiés qui se trouvaient déjà sur place avant le mois d'août, cette langue de terre du Bangladesh compte maintenant plus de 800 000 Rohingyas et un millier continue à arriver chaque jour de Birmanie.
Un dossier signé Sébastien Farcy dans le camp de réfugiés de Baloukali 2 dans le sud du Bangladesh. Les islamistes radicaux remportent une victoire au Pakistan. Depuis 3 semaines, plusieurs milliers de militants campaient sur la principale autoroute d'accès à Islamabad. Ils criaient au blasphème depuis la modification d'une formule de prestation de serment électoral. Non seulement le gouvernement pakistanais a fait marche arrière, mais le ministre de la Justice, à l'origine de cette modification de texte, a dû démissionner. Une administration bienveillante et ouverte au dialogue, c'est ce que veut garantir le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance présenté ce matin en Conseil des ministres. Le projet devait être initialement présenté cet été, mais il a été revu et enrichi. Et dans cette seconde mouture, Valentine Joubin, le principe du droit à l'erreur est bien conservé. En quoi est-ce que ça consiste exactement ?
Eh bien, c'est le droit pour une entreprise ou un particulier de se tromper dans sa déclaration administrative. Si c'est la première fois et que le citoyen est de bonne foi, c'est-à-dire s'il n'avait pas l'intention de frauder. Dans ce cas et dans ce cas uniquement, il n'y aura pas de sanction. Voilà pour le principe, mais il y a des exceptions. Au sujet des impôts, par exemple, si une erreur de bonne foi est détectée, les intérêts de retard seront réduits de 30 à 50%. La sanction ne disparaît donc pas totalement. Pour Éric Coquerel, député de la France Insoumise et membre de la Commission des Finances, cette indulgence fiscale existe déjà et la renforcer donnerait un mauvais signal.
Aujourd'hui, le taux de recouvrement en France de l'impôt, il est très important et il montre d'ailleurs l'efficacité de l'administration fiscale. Quelque part, tout ça fonctionne. Je vois pas pourquoi et au nom de quoi on applique une nouvelle possibilité de revenir en arrière. Il ne faudrait pas que le droit à l'erreur se transforme en réalité une espèce d'autorisation à la triche et puis on peut la récupérer une fois que les choses ont été un peu trop visibles.
Le gouvernement, lui, parle d'établir une relation de confiance avec les entreprises, avec notamment le droit au contrôle à blanc. Une société pourra demander elle-même à être contrôlée par une administration pour s'assurer qu'elle est en conformité avec la loi. Des médiations avec l'URSSAF seront également mises en place pour éviter un contentieux. L'objectif de cette loi est aussi de simplifier les démarches administratives avec notamment la création d'un référent unique. Il aura la charge de centraliser toutes les demandes des usagers. Bonne idée, mais cela relève totalement d'un changement de culture, prévient Julien Aubert, député Les Républicains.
Vous pouvez organiser des guichets uniques. Encore faut-il ensuite que des administrations qui répondent à des ministères ou à des autorités différentes sachent se coordonner, ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il s'agit ensuite de contrôler des champs de spécialisation très particuliers, vous ne pouvez pas faire sans avoir un écosystème d'organes de contrôle qui parfois se marchent dessus.
Le gouvernement a d'ailleurs prévu d'expérimenter ce guichet unique avant peut-être de le généraliser. Même chose pour les horaires des services publics qui devraient être allongés dans certains départements.
Merci Valentine Joubin. Un petit casse-tête à résoudre pour l'Assemblée. Thierry Soler, député constructif, ex-Les Républicains, vient de rejoindre La République En Marche, comme Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin. Sa particularité, c'est qu'il a été élu questeur avant de changer d'étiquette. Il y a donc désormais 3 questeurs LREM et aucun représentant de l'opposition, contrairement à la tradition. Bonsoir Ludovic Quétenu.
Bonsoir Aurélie.
Le président de l'Assemblée, François de Rugy, a annoncé une consultation des présidents de groupe.
Oui, il y a urgence, semble dire le président de l'Assemblée nationale dans ce communiqué, confronté à ce qui est, c'est aussi simple, une première dans l'histoire de la Ve République. Avec ce transfert de Thierry Soler des constructifs vers La République En Marche, les 3 députés questeurs sont tous membres de la majorité. Le président de l'Assemblée est le garant du pluralisme, il est le garant des droits de l'opposition. Évidemment, il considère que la situation n'est pas satisfaisante. Sauf que personne n'a le pouvoir de démissionner un questeur. Ceux-ci ont été élus le mois dernier pour 1 an. Il faudrait donc attendre octobre 2018 pour sortir de cette situation, pour que le républicain Éric Ciotti lui succède. Ce poste de questeur attribué aux républicains, c'est le fruit d'un accord conclu pour calmer la colère de la droite cet automne, de voir ce constructif Thierry Soler jugé trop proche d'En Marche et pas assez dans l'opposition, glaner cette question. Ce poste important au sein de l'Assemblée. Et aujourd'hui, les Républicains se disent qu'ils avaient bien raison de s'inquiéter quand ils voient le député des Hauts-de-Seine se mettre réellement en marche. La recomposition politique qui est à l'œuvre entraîne des situations assez ubuesques, mais il y a fort à parier que cette anomalie démocratique sera assez vite réglée. Les échanges de SMS, les coups de fil se sont multipliés cet après-midi. Les groupes d'opposition ont signifié leur agacement. Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, aura demain matin un échange collectif avec eux. La solution peut être facile à trouver, Aurélie. Il suffit que Thierry Soler accepte de remettre lui-même sa démission.
Eh ben voilà, c'est simple. Ludovic Piétenu. Une affaire de pollution aux dioxines jugée devant le tribunal correctionnel de Paris. C'est la communauté d'agglomération de Melun en Seine-et-Marne qui est poursuivie pour mise en danger d'autrui. La justice lui reproche de ne pas avoir mis aux normes un incinérateur d'ordures ménagères qu'elle exploitait et qui a rejeté à certains moments des dioxines dans l'air dans des taux plus de 2000 fois supérieurs à la norme. On vous retrouve au palais de justice de Paris, Bertrand Marc.
Oui, les riverains de l'incinérateur sont venus en nombre, ils sont 67 dans la salle d'audience. La greffière passe une bonne heure à faire l'appel, certains ne sont pas venus en personne. C'est leur fils ou leur sœur qui lève la main parce qu'ils sont à l'hôpital, grogne l'avocat des parties civiles. Pour lui, l'incinérateur n'était pas aux normes, la communauté de communes le savait et aujourd'hui, 15 ans après la fermeture, le taux de dioxine dans le sang des habitants est toujours 3 à 4 fois plus élevé que la normale. Des médecins en ont conclu à un risque plus élevé de cancer. L'avocat de la défense, Pierre Chenu, balaie cet argument, il explique que sur le banc des prévenus, il y a une personne morale, la communauté de communes de Melun. Elle a repris l'exploitation du site en 2002, 6 mois avant la fermeture, donc elle ne peut être jugée que sur ces 6 mois et pas sur les 30 ans d'exploitation qui ont précédé. Mais pour les parties civiles, ce procès, ce n'est pas celui d'une intercommunalité, de tel ou tel maire en particulier. C'est celui de la puissance publique en général qui a failli à son devoir de protéger les citoyens. Le tribunal devra dire si oui ou non cela constitue une mise en danger de la vie d'autrui.
Marc Bertrand de France Bleu, Île-de-France. Un enseignant condamné à 18 mois de prison avec sursis pour sa liaison avec une collégienne. La relation avait duré plusieurs mois entre le professeur de 31 ans et son élève de 14 ans. Le tribunal correctionnel de Fontainebleau a jugé l'enseignant coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Le CSA, mise à contribution dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Emmanuel Macron a annoncé ce week-end une série de mesures. Le président envisage notamment une extension de pouvoir du CSA pour lutter contre la pornographie accessible aux enfants, pouvant conduire à la violence contre les femmes. Bonsoir Lise Verbeck.
Bonsoir.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait donc à l'avenir contrôler les contenus numériques comme les jeux vidéo ou les vidéos sur Internet.
Oui, et le CSA a répondu favorablement à l'annonce d'Emmanuel Macron en indiquant, je cite, qu'il est disponible pour la prise en charge de cette nouvelle forme de régulation. Disponible, le CSA l'est en fait depuis plusieurs années. Pouvoir réguler ce qu'il se passe sur Internet est une demande formulée depuis longtemps. Encore récemment, le Conseil en avait remis une couche par la voix d'une conseillère qui indiquait, je cite, « Dans un monde où il y a 6 à 7 écrans par foyer, cela nécessite qu'on mette à jour notre régulation ». Aujourd'hui donc, l'idée revient et émane du président. Mais le CSA peut-il et doit-il endosser ce nouveau rôle ? Non, selon Arthur Messon, juriste de l'association La Quadrature du Net qui défend les libertés sur Internet. Il parle d'effet d'annonce.
Le CSA, lui, son rôle, d'abord, n'a jamais été de réguler les comportements individuels. Son rôle, c'est de réguler les diffuseurs. Sur la télévision, les diffuseurs, ils sont restreints. Parce que la télévision, il y a un nombre restreint de canaux. Et lui, il va réguler, voilà, acteur par acteur. Appliquer cette logique à Internet est complètement absurde et inapproprié. Internet, il n'y a pas de limite de canaux. Tout le monde peut ouvrir son blog, tout le monde peut ouvrir un site, tout le monde peut faire un commentaire. Et le CSA ne va pas se mettre à réguler chacun des internautes. Il en serait complètement incapable. Il ne peut pas connaître des affaires individuelles pour prononcer des sanctions en respectant les principes du procès équitable. Seul un juge peut le faire. Et en fait, ça existe déjà. C'est déjà appliqué.
Selon une avocate spécialiste du droit sur Internet, il est légitime de chercher à réorienter les missions du CSA, mais il faudrait commencer d'abord par réguler les réseaux sociaux, ou encore YouTube, épinglé encore récemment pour des vidéos à caractère scabreux sur sa chaîne à destination des enfants. Mais là-dessus, le CSA n'aura aucune prise, car les GAFA, les géants du web, ne sont pas soumis au droit français.
Lise Verbeck, une maison commune de la musique, c'est le projet présenté cet après-midi au ministère de la Culture. L'idée avait été évoquée dans le programme du candidat François Hollande en 2012, mais elle ne s'était pas concrétisée. La nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen, y croit, Antoine Maret.
Oui, effectivement, c'est devant des acteurs du milieu musical français que Françoise Nyssen a introduit la présentation de ce rapport tout à l'heure.
Dès mon arrivée, j'ai souhaité lancer une mission sur la maison commune de la musique pour nous assurer de la pertinence d'un tel projet, vérifier ensuite par la concertation que votre filière était toujours en soutien de cette idée et le cas échéant, la mobiliser pour impulser et accompagner très tôt ce vaste plan pour la musique en vous fédérant.
C'est un magistrat de la Cour des comptes, Roch Olivier Maistre, que la ministre de la Culture a confié ce rapport sur cette maison commune de la musique.
Nous avons le sentiment qu'il y a place aujourd'hui pour un établissement public, une maison commune qui porte pour le compte de l'État, pour le compte de la filière, une série d'actions d'intérêt général que j'ai résumées sous 5 thèmes. D'abord l'observation, parce que l'appareillage statistique sur le monde de la musique est en fait très dispersé aujourd'hui. Le soutien pour permettre l'émergence de jeunes pousses et défendre la diversité. Le volet international, parce que notre musique est très présente à l'international dans toutes les esthétiques et mérite d'être soutenue. La formation également, et une fonction de centre de ressources, c'est-à-dire un lieu où on puisse avoir l'information sur la musique.
Cette maison commune de la musique aurait comme base le Centre national des variétés qui existe déjà. Elle serait financée notamment par une nouvelle taxe numérique et elle pourrait voir le jour en janvier 2019.
Antoine Marette, Météo France nous annonce un temps instable demain avec une perturbation pluvieuse qui traversera le pays du nord-ouest au sud-est. Les températures maximales atteindront 4 à 14 degrés du nord-est à la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.